Voilà le top horaire qui nous indique qu'il est 19h à La Paz et Washington, 1h à Paris. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale. L'actualité du monde sur la radio du monde, c'est avec vous Arthur Ponchelet. Bonsoir Arthur.
Bonsoir Zéphirin et bonsoir à vous qui nous écoutez. À la une, Ursula von der Leyen rempile pour 5 années de plus. Les 27 se sont mis d'accord sur les postes clés de l'Union européenne après d'intenses tractations. Avec deux nouveaux noms pour ces top jobs, nous irons à Bruxelles dès le début de ce journal. 17 personnes arrêtées en Bolivie, elles sont soupçonnées d'avoir participé à la tentative de coup d'État. C'était ce mercredi. Un général de l'armée a tenté de renverser le président bolivien. Dans ce journal également, nous serons aux États-Unis avec un nouveau rebondissement judiciaire dans la crise des opiacés. Et puis direction le Royaume-Uni, les internes en médecine ont lancé une nouvelle grève pour réclamer de meilleurs salaires.
RFI.
Leur nom était très attendu. On connaît le nouvel organigramme de l'Union européenne. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE se sont mis d'accord il y a quelques minutes sur les fameux top jobs, les postes clés de l'Union. Sans surprise, Ursula von der Leyen rempile à la tête de la Commission. Le Portugais Antonio Costa est lui nommé à la tête du Conseil européen. Et c'est l'Estonienne Kaja Kallas qui devient la nouvelle chef de la diplomatie européenne. Julien Chavannes, l'accord a été scellé malgré la colère de l'Italie et de la Hongrie.
C'était le sujet le plus sensible. Les 27 ont attendu la fin de leur dîner pour parler top jobs. Giorgia Meloni et Viktor Orban ont été très clairs. Ils n'ont pas du tout aimé être laissés de côté pour composer cet organigramme. Finalement, les dirigeants italiens et hongrois n'ont pas joué le bras de fer trop longtemps. De toute façon, la partie était perdue d'avance. Le trio gagnant est celui annoncé depuis le soir des européennes. Mais la suite se jouera au Parlement européen mi-juillet et ça s'annonce plus compliqué. Ursula von der Leyen aura besoin d'obtenir une majorité dans l'hémicycle et le soutien, ou du moins la non-opposition de Giorgia Meloni pourrait être cruciale. L'Italienne s'est abstenue ce soir pour la présidence de la Commission, mais elle a voté contre les nominations de Kaja Kallas et d'Antonio Costa. Désormais, à la tête du troisième groupe au Parlement, Giorgia Meloni est bien décidée à peser plus que jamais à Bruxelles. Julien Chavannes, Bruxelles, RFI.
Et c'est justement à Bruxelles qu'Emmanuel Macron s'exprime au sujet des élections législatives en France. C'est le dernier jour de campagne avant le premier tour. Ce soir, le président français dénonce l'arrogance du Rassemblement national qui, selon lui, se partage déjà les postes au gouvernement. Le chef de l'État évoque aussi la parole désinhibée de ces derniers jours, le racisme ou l'antisémitisme. Un peu plus tôt, lors d'un débat télévisé, son premier ministre, Gabriel Attal, accusait le chef du Rassemblement national, Jordan Bardella, de présenter une centaine de candidats ayant tenu des propos racistes, antisémites ou homophobes, accusation réfutée par le chef du RN. RFI 19h03 à La Paz en Bolivie où 17 personnes dont des militaires et plusieurs civils ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin à la tentative de coup d'État ce mercredi. Souvenez-vous, un général de l'armée bolivienne a tenté de renverser le président. Des chars avaient occupé la place Murillo à La Paz, la capitale. C'est là que se trouvent le Parlement et le gouvernement. Ils se sont finalement retirés. On prend justement la direction de La Paz où on retrouve notre correspondant, Nils Sabin. Nils, quelle est la situation sur place aujourd'hui?
Eh bien, la situation est revenue à la normale dès hier soir. On peut circuler sans aucun souci sur la place Murillo qu'occupaient les militaires hier après-midi. Et pour quelqu'un qui arriverait aujourd'hui à La Paz, il serait presque impossible de deviner qu'il y a une tentative de coup d'État il y a moins de 24 heures. Hier soir, le meneur des militaires rebelles, Juan José Zuniga, a été rapidement arrêté, tout comme un vice-amiral, lui aussi accusé d'avoir organisé la tentative de coup d'État. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'une dizaine de militaires avaient été arrêtés, que l'on compte 12 blessés par balle et que les accusés risquent jusqu'à 30 ans de prison. Aujourd'hui, tout le monde essaye de comprendre quelles ont été les motivations des militaires. Les déclarations de Juan José Zuniga lors de son arrestation ont également jeté le doute sur les événements. Celui-ci a déclaré que c'était le président Luis Arce lui-même qui lui avait demandé d'organiser la prise de la place Murillo par les militaires. Selon lui, le président aurait fait cette demande aux militaires pour tenter de redorer son image. Une accusation qui a été niée par le ministre de l'Intérieur. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Joe Biden et Donald Trump sont arrivés en Géorgie. C'est dans cet état du sud des États-Unis que les deux concurrents à la Maison-Blanche doivent débattre. Première confrontation entre le président sortant et son rival républicain, organisée par la chaîne de télévision CNN. Il va falloir attendre encore quelques heures avant l'ouverture des hostilités. Ce sera à 1h, temps universel. On reste aux États-Unis avec un nouvel épisode de l'une des affaires les plus symboliques de la crise des opiacés dans le pays. La Cour suprême a rejeté ce jeudi un accord d'indemnisation de 6 milliards de dollars. Il avait été signé entre 50 États américains et le laboratoire Purdue. C'est ce laboratoire pharmaceutique qui fabrique les antidouleurs au cœur de cette crise sanitaire. Les juges reprochent à cet accord d'empêcher toute poursuite de la famille Sackler, propriétaire du laboratoire. Correspondance aux États-Unis de David Thompson.
Cet accord d'indemnisation à 6 milliards de dollars avait été signé en 2022 entre le laboratoire Purdue, visé par une avalanche de poursuites, et 50 États américains, à une condition: l'arrêt des poursuites judiciaires contre la famille Sackler. Cette famille, propriétaire du laboratoire, est accusée d'avoir fait fortune grâce à la crise des opiacés avec la surprescription de son antidouleur, l'oxycontine, considéré comme le déclencheur de cette crise sanitaire qui a fait plus d'un demi-million de victimes en 20 ans aux États-Unis. Les familles de ces victimes n'avaient pas consenti à l'immunité de la famille Sackler, et c'est ce qui a poussé le ministère de la Justice à saisir la Cour suprême. À une courte majorité d'une voix, à 5 contre 4, la plus haute juridiction des États-Unis annule donc cet accord aujourd'hui. La loi américaine n'autorise pas l'immunisation de toute poursuite sans le consentement des plaignants, justifie l'un des juges qui a voté pour. Mais en annulant cet accord controversé, cette décision aura un impact dévastateur sur des milliers de victimes, déplore l'un des juges qui, lui, a voté contre. Car en rejetant cet accord, la Cour annule du même coup les milliards de dollars d'indemnisation négociés après des années de procès par ces victimes, désormais contraintes de reprendre le chemin des tribunaux. David Thompson, Miami, RFI.
Autre décision de la Cour suprême américaine, l'avortement en cas d'urgence médicale a été à nouveau autorisé dans l'Idaho. Cet état rural et conservateur avait fortement restreint le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Réaction du président Joe Biden, je cite, « Aucune femme ne devrait être obligée d'attendre d'être en danger de mort pour recevoir les soins dont elle a besoin ». Plus de 150 migrants secourus dans la Manche ce jeudi. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord de deux embarcations surchargées. Elles étaient en difficulté selon la préfecture de la Manche et de la mer du Nord. Tous les passagers ont été raccompagnés au port de Calais et ont été pris en charge par les services de secours terrestres ainsi que la police aux frontières. De l'autre côté de la Manche, justement au Royaume-Uni, les hôpitaux sont à nouveau perturbés par un mouvement de grève. Les internes en médecine débraillent depuis ce jeudi matin et jusqu'au 2 juillet. Il réclame notamment de meilleures conditions salariales. Notre correspondante à Londres, Emeline Vin, s'est rendue sur le piquet de grève de Guy Hospital, juste en face du Parlement. Écoutez.
Les internes réclament la revalorisation de 35% de leur salaire pour compenser l'austérité des années 2010. Soumi Manirajan, obstétricienne et représentante du syndicat BMA à l'origine de la grève.
Un docteur fraîchement diplômé touche 15 livres de l'heure, environ 18 euros. J'ai été diplômée en 2021 et j'ai vu mes collègues, les amis avec qui j'ai étudié, quitter le pays pour aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, où ils sont payés correctement. Ceux qui restent se retrouvent avec d'autant plus de travail et s'épuisent.
C'est la 11e fois que les jeunes médecins font grève. En moins de 2 ans, les négociations n'avancent pas. Cette psychiatre se sent
épuisée. Nous n'aimons pas faire grève. Nos collègues sont conciliants, mais on sait que ça rajoute de la pression à tout le monde. On voudrait arrêter, mais nous avons l'impression que nous n'avons pas d'autre choix.
Sur le pont en face de l'hôpital, des patients ont déployé une bannière en soutien aux grévistes. Hope Worsdale a été opérée en début d'année.
Les soignants ont été formidables, mais j'ai bien vu qu'ils étaient sous pression. Ils n'ont ni le temps, ni les ressources, ni la possibilité de faire leur travail correctement. Or, les conditions de travail des soignants, ce sont les conditions dans lesquelles les patients sont traités.
À une semaine des élections, les médecins jugent les promesses des grands partis en matière de santé insuffisantes. Emeline Vin, Londres, RFI.
Un mot de sport avant de refermer ce journal. En basket, deuxième round de la draft NBA ce vendredi, avec un nom bien connu des fans de basket, Bronny James, 19 ans, le fils de la superstar LeBron James, a été choisi par les Los Angeles Lakers, le même club que son père. Cela pourrait être la première fois qu'un père et son fils jouent en même temps dans l'histoire de la NBA. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Il est 1h passée de 10 minutes ici à Paris. Tout de suite sur RFI, c'est pas du vent.